Bonjour, nous sommes des volontaires dans le service civique Cinéma et Citoyenneté. Notre objectif à nous, c'est d'intervenir dans les établissements scolaires ou autres pour sensibiliser les jeunes sur des sujets de société via le biais du cinéma. Notre organisme à nous, il s'appelle Unicité et c'est un organisme stéphanois qui propose plusieurs services civiques comme par exemple la précarité alimentaire ou l'aide aux personnes âgées ou encore l'accompagnement aux personnes en situation de handicap. Vous allez entendre aujourd'hui une émission réalisée avec Radio Ondaine. Notre équipe, elle est constituée de Joachim Serda, de Emma Bourgier, Martin Murat, Annelle Deville, Lisa Béga et Tristan Satrevial. Le 8 avril, dans le cadre de notre mission, nous avons souhaité traiter du sujet des violences faites aux femmes, notamment à travers Internet et les cyberviolences. Nous avons organisé la projection du documentaire « Je vous salue salope » de Léa Clermont-Dion et de Guylaine Marois, au Méliès Jean Jaurès de Saint-Étienne, donc sur le thème de ces cyberviolences et de toute cette misogynie au temps du numérique.
Avant la séance, nous sommes allés à la rencontre du public pour un micro-trottoir. Nous leur avons demandé quelle place prennent les réseaux sociaux dans leur vie et quelle utilisation en ont-ils.
Ils prennent vachement de place dans ma vie, que ce soit avec le réseau social Twitter ou même X, X maintenant, ou même Insta. Je vois que j'ai de plus en plus de mal à arrêter de regarder mon téléphone quelques heures, quoi.
Alors moi, je suis un peu classique, je pense, dans les réseaux sociaux. J'ai Facebook et LinkedIn, donc un réseau pro, et Facebook, il paraît que c'est un peu ringard, mais bon, ça donne à peu près mon âge.
Beaucoup trop. Beaucoup trop. Bon, pas pour moi, parce que je suis un peu réfractaire aux réseaux sociaux, mais quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que ça prend beaucoup de place. Oui.
Bah oui, ça prend beaucoup de place, parce que depuis que au collège, on a tous eu les réseaux sociaux, genre ça a commencé par Facebook. Enfin, moi, ça a pas commencé par Facebook, ça a commencé par Google+.
Eh bien, moi non, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, à part Instagram ou WhatsApp. Je ne sais pas si c'est des réseaux sociaux, ça, mais sinon c'est tout.
Eh ben, mais moi, c'est pareil, je n'y vais pas non plus.
C'est pas une place primordiale, c'est-à-dire que je peux m'informer dessus, je peux parler avec mes amis, mais c'est pas un truc que je vais foncièrement faire tous les jours, ou c'est seulement si j'ai une notif et encore que je vais dessus, c'est pas checker tous les jours, voir si on m'a parlé, tout ça. Si j'ai pas de notif, je vais pas voir. Ce qui peut arriver, que je parle pas à une personne pendant très longtemps parce que j'ai pas vu sa notif. J'utilise principalement Instagram, pas beaucoup Snapchat et Discord qui est pour moi un réseau un peu quand même. Et je l'utilise beaucoup parce que c'est là où je parle beaucoup à beaucoup d'amis. Donc,
Aucun.
Alors, moi je suis exclusivement sur Facebook. Voilà. Mais je suis vigilante parce qu'il y a quand même des personnes, je pense, mal intentionnées qui, quelquefois, m'envoient des messages par Messenger. Donc, je fais très attention. Alors, moi, je me sers de Facebook pour les événements, pour savoir ce qui se passe dans ma ville ou dans la ville où je me trouve. Voilà, et puis bon, je suis quelques personnes aussi sur Facebook.
Une place normale, je dirais.
Donc c'est très présent quand même dans ma vie quotidienne. Ouais.
Vu la génération d'aujourd'hui, on est beaucoup connectés sur les réseaux. C'est important pour la transmission des informations et même pour la communication aussi.
Personnellement, j'ai un compte Instagram, mais sinon, ça va pas au-delà. Je suis pas quelqu'un qui est active. Je suis plus la minorité silencieuse qui regarde. Voilà, c'est pas une place très importante. Ça sert à passer le temps.
Moi, du coup, c'est l'inverse de toi. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux, plus sur TikTok, Instagram et Snap. J'y vais régulièrement, plusieurs fois par jour, et puis voilà. C'est un moyen de divertissement comme un autre.
Moi aussi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne m'expose pas. Je suis en compte privé et je compte y rester. Et j'y passe de temps en temps dessus.
Bah, ça prend une place importante. Maintenant, tout le monde l'utilise. Tout le monde est sur les réseaux sociaux et ça nous influence.
C'est plus professionnel, une manière de faire passer ce que je fais professionnellement pour le moment. Mais j'y suis pas tout le temps. C'est vraiment pour un outil professionnel, voilà.
Pour moi, ça prend pas mal de place, en effet. C'est quelque chose même de la vie de tous les jours, quoi, je dirais. Tous les matins, on consulte Insta avant les mails. Donc, non, ça prend une grosse place, je pense. Je pense que je suis pas le seul. Je pense que je dois bien y passer 2 heures par jour dessus.
Combien d'heures ? Une demi-heure par jour ?
Je dirais 1 heure par jour. J'ai essayé de diminuer, ouais, parce que j'avais conscience que ça tendait à augmenter avec l'installation de certaines applis.
Moi, je dirais moins d'une heure en soi, puis ça dépend des jours également.
Une fois par semaine ? Hebdomadaire, une fois par semaine ? Moi, c'est quotidien, du coup.
Alors, je regarde tous les jours et je partage de la com par rapport à mon activité professionnelle.
3-4 heures par jour, c'est souvent.
Par jour, en termes d'heures, je pense qu'on est environ à un bon 3 heures, même plus par moment. Et en vrai, l'utilisation, par exemple, de X, c'est plus pour les infos, si j'ai raté des trucs. Et Insta, c'est plus personnel pour avec des proches ou tout ça, pour parler avec des proches.
Elle est quotidienne quand même. Oui, je pense que je commence à passer beaucoup de temps dessus. Je sais pas, je dirais peut-être, ça fait mal de se le dire, peut-être une demi-heure par jour, voire plus, peut-être.
Je dois y passer un quart d'heure par jour maximum, moi.
Je dois passer peut-être une heure sur Instagram.
Moi, quotidienne aussi.
Pareil, quotidienne.
Oui, une demi-heure environ.
Instagram, ça dépend des jours. Des fois, ça peut être 2 heures, des fois, ça peut être 30 minutes. TikTok, ça peut vite aller vers les 4 heures.
Nous leur avons ensuite demandé de définir ce qu'était le terme cyberviolence et de comment s'en protéger.
Oula, c'est un sujet sensible, ça. Les cyberviolences, c'est... Ça peut être vécu, c'est dur pour les personnes qui en subissent. Et surtout, pour moi en tout cas, c'est la facilité des personnes qui utilisent ce mode d'agression. Que ça soit même au niveau scolaire, parce qu'il y a des répercussions aussi derrière, que ce soit scolaire ou des adultes d'ailleurs, parce qu'il y a des adultes aussi qui en subissent. Donc c'est tout ce qui se passe derrière aussi, tout le vécu de la personne. On ne se rend pas compte qu'en fait, on peut détruire quelqu'un à travers ces agressions-là qui sont, qui sont fréquents, je pense.
Pour moi, les cyberviolences, c'est des insultes sur des réseaux sociaux, des menaces de mort, encore plein de choses qui sont vis-à-vis d'intimider la personne pour faire peur, en fait.
On va dire que c'est quelque chose qui est pas cool. Alors, je pense que c'est ce que tout le monde a répondu. Mais c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont pas sensibilisés à ça, qui se font détruire par des gens sur Internet qui, eux, n'ont rien à faire de leur vie. C'est juste des gens qui s'amusent à être haineux juste pour être haineux sous couvert de leur anonymat, donc moi je trouve que du coup les cyberviolences c'est pas bien, mais que c'est en train de se développer de plus en plus et qu'il faudrait prendre des mesures. J'ai pas les mesures en tête, mais ça serait bien d'en prendre.
Alors cyberviolence pour moi c'est c'est un numérique qui ne respecte pas la dignité humaine, qui ne respecte pas les libertés individuelles et collectives, qui ne respecte pas la démocratie et qui ne respecte pas non plus la vie personnelle des gens. Donc voilà, si on peut résumer assez rapidement, c'est un peu ça.
Alors les cyberviolences, je définirais de l'agressivité, des mots percutants et qui détruisent.
Les agressions via les réseaux, je dirais que c'est soit par des messages... Soit si c'est un réseau social public, sur des commentaires de publication, ce genre de choses.
Et c'est du harcèlement, où l'intention est de démolir quelqu'un, de lui faire mal. J'ai du mal à comprendre qu'on en arrive là et qu'il n'y ait pas de... Que personne ne maîtrise actuellement, on a l'impression. Hein, que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Quand j'étais au travail... J'étais surprise quand on voulait connaître des choses sur une personne pour l'attaquer, ça marchait. Hein.
C'est les violences de toutes les formes qui ont lieu sur Internet, sur les réseaux sociaux de manière générale. Voilà. Donc des insultes, du harcèlement, des menaces, etc. etc.
Moi, je dirais pareil que toi pour le coup, mais je dirais aussi que j'irais plus loin dans la réflexion, dans le sens où c'est des personnes qui n'osent pas forcément passer à l'acte en personne, mais qui le font sur Internet parce qu'il y a la barrière de l'écran, justement.
Dans l'anonymat.
Exactement. Ouais, je pense qu'elles sont très simples, très atteignables, parce que tout le monde peut le faire et ils se sentent protégés quand ils le font.
Harcèlement sur les réseaux sociaux, comme dans la vraie vie, quoi, jusqu'à ce que la victime casse mentalement.
Je pense que c'est des gens qui s'ennuient un peu et qui vont emmerder des gens sans grande raison et sans chercher à savoir le fond des choses et qui ont besoin de déverser leur, leur haine?
Je sais pas, je pense à des agressions, des insultes, des humiliations publiques sur le net et de façon anonyme. Du coup, un peu gratuite et lâche.
Pour moi, la cyberviolence, ça se traduit par des insultes sur les réseaux sociaux, notamment. Mais pas que ça, ça peut aller plus loin sur des pressions, par exemple... ça peut être du leak d'informations, genre de choses, du piratage. Enfin, pour moi, c'est un gros ensemble. Et c'est quelque chose qui est pénalement répréhensible. Hein. Donc, en fait, ça englobe pas mal de choses.
Les cyberviolences, pour moi, bah, ce sont des violences faites par le biais des réseaux. Et ça cible très souvent les femmes.
Les cyberviolences, c'est une attaque aux personnes via les réseaux surtout. Voilà, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup chez les jeunes et qui sont vraiment, ils font vraiment des ravages.
Oui, on va être sur un harcèlement psychologique. Ça va être, en masse aussi. Je pense que cette notion du nombre est important et le fait qu'il n'y ait plus de protection vie privée à l'échelle de l'école, enfin, il n'y a plus de frontières, ce qui fait que ça peut vraiment avoir une place énorme dans la vie des personnes harcelées.
Et ben, les cyberviolences, je pense qu'elles sont aussi quotidiennes et elles sont larges. Ça peut être un commentaire un peu haineux ou avec des jugements jusqu'au harcèlement. Je pense que c'est assez large, mais je pense qu'elle est aussi, quotidienne. Je dirais même aussi, des fois, les contenus qu'on ne choisit pas et qui sont hyper violents et que, du coup, on s'attrape en pleine face.
Cyberviolence, on en a entendu parler en écoutant les infos ou en lisant des articles là-dessus. Effectivement, c'est justement parce que des jeunes utilisent les réseaux sociaux un peu trop, je sais pas comment dire, librement peut-être, où ils se disent un peu n'importe quoi, c'est un peu, il y a pas de filtre, quoi. C'est surtout ça qui me gêne un petit peu.
Oui, moi je pense au harcèlement par exemple qui peut très bien, qui prend beaucoup de place actuellement sur les réseaux sociaux. On peut facilement harceler quelqu'un sur les réseaux sociaux. C'est une violence, le harcèlement.
Je pense que déjà comprendre le fonctionnement et il y a une notion d'éducation, comprendre à bien utiliser, à se protéger et également dans notre diffusion aussi. Mais je pense que ça passe vraiment par la prévention, notamment auprès des plus jeunes, et progressivement on se construit et on développe notre esprit critique, etc.
Je pense que ça passe par un gros travail de prévention et d'éducation à l'usage du numérique, que ce soit à l'école ou dans la sphère familiale, et puis savoir être habile dans l'usage du numérique et être vigilant face aux risques potentiels.
Et je me dis, c'est important parce que là, on parle aussi des victimes, mais ça va être apprendre le vivre ensemble et justement apprendre à communiquer. Parce que si on fait ce travail-là, on évite aussi des propos qui peuvent blesser, etc. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se positionner plus sur la protection des victimes, mais la prévention, elle passe aussi par l'apprentissage du bon usage et du vivre ensemble. Et ouais, c'est ça.
Bon, moi, je bloque les gens si ça arrive, mais ça arrive rarement parce que je suis pas à un âge où je suis trop là-dedans, je pense. Mais je sais pas s'il y a un âge d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est plutôt la jeunesse.
Déjà, j'évite de dire mon prénom ou de poster des trucs sur Internet. C'est-à-dire que je ne pose pas de photos de moi, je ne commente pas, tout ça. Donc, c'est très compliqué de me contacter. Je vérifie les gens que je suis ou qui veulent me parler. Donc, je ne parle pas à n'importe qui. En général, ça passe souvent par « je l'ai déjà vu dans la vraie vie ».
M'en protéger moi et protéger les autres, enfin mes amis, je leur dirais de bloquer la personne qui les harcèle.
M'en protéger, non, mais non, j'y vais pas, moi, parce que j'y vais pas justement par rapport à ça, parce que je sais que c'est tout et n'importe quoi, mais je pense que moi, il devrait y avoir une sorte d'éducation, de formation, peut-être à partir du collège, pour apprendre aux jeunes à se servir de ces outils-là, et surtout leur indiquer, leur faire comprendre les dangers qu'il y a à harceler les autres, voilà, pour prendre conscience un petit peu de ce qu'ils font, surtout qu'ils le font d'une façon assez lâche, parce que c'est généralement, c'est anonyme, donc c'est très facile d'insulter les gens de façon anonyme, quoi. Voilà, je trouve ça, oui, il y a une certaine lâcheté dedans.
Je dirais peut-être mettre son réseau social en privé, mais en vrai, c'est peut-être pas la bonne solution. Je sais pas s'il y a beaucoup de moyens pour s'en protéger, je dirais juste faire attention à ce qu'on poste et ce qu'on like.
Bah, ce qui est important, c'est de pas trop s'exposer, selon moi, d'être en privé, de pas publier des choses trop personnelles qui peuvent donner trop d'informations sur nous, de signaler dès qu'on voit des comportements qui sont anormaux. Voilà, et de pas tolérer dès que ça part en cacahuète, quoi.
Je suis d'accord avec toi et bah, moi je m'expose un peu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. Et pour ma part, j'ai jamais reçu de méchants commentaires ou de cyberharcèlement. Mais la meilleure façon de se protéger, c'est, comme elle a dit, de signaler directement, de ne pas tolérer. Et puis pour ma part, je fais abstraction des. Enfin, si jamais un jour j'en reçois, quoi, c'est pas quelque chose qui va m'atteindre.
À titre personnel, moi j'évite de poster des choses qui me mettent directement en avant. Donc pas de photos, pas de. Comme ça me sécurise un maximum. En tout cas, sur tout ce qui est phishing, tout ça, enfin je fais très attention. Et moi je pense qu'il faut faire très attention en général à ce qu'on poste. Parce qu'il y aura toujours une retombée négative, que ce soit par nos futurs patrons ou par des personnes mal intentionnées.
Je porterai plainte. J'essaierai de m'inscrire dans un groupe de parole ou d'inscrire la personne dans un groupe de parole. Je dénoncerai la personne pour pas que ça se reproduise, si possible. Et peut-être je supprimerai mes comptes.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, plutôt couper les réseaux pour plus avoir à le subir, quoi.
Bah, je pense qu'il y a d'abord une très grande part d'éducation aux médias à l'information. Donc c'est comment on va utiliser les réseaux sociaux dans le quotidien, c'est quoi l'information, c'est quoi un réseau social, est-ce que c'est une prolongation de la vie plutôt moléculaire, parce que je ne dirais pas qu'il n'est pas réel, parce que le numérique n'est pas dépourvu non plus de matérialité, mais voilà, en tout cas c'est comment on continue en tout cas de respecter toutes les valeurs qu'on peut porter au quotidien dans la vie sociale du quotidien. Dans une vie qui est digitale, qui est numérique.
Arrêter les réseaux sociaux, c'est peut-être la meilleure solution.
Ça nous intéresse énormément ce qui se passe, surtout que c'est un outil qu'on n'a pas connu dans notre génération, quoi. Nous, on est assez surpris de ce qui s'y passe dessus. Pour nous, Internet, au début, les réseaux sociaux, c'était plutôt la liberté d'expression. Donc ouais, c'était une forme de liberté avec un L majuscule. Et puis en définitive, c'est une drôle de liberté, quoi. C'est la liberté de s'insulter et de dire n'importe quoi.
Maintenant, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas faire grand chose en fait. Tout le monde est assez libre sur le réseau, donc c'est assez difficile. Ouais.
J'ai heureusement pas à m'en protéger pour le moment. Et protéger les autres en faisant peut-être de la prévention pour les gens qu'on connaît ou en voyant un commentaire malveillant d'aller y répondre. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? C'est une autre question.
Oh, je pense que ça m'arriverait. Je pense que je supprimerais l'application sur laquelle ça m'en vient ou je porterais plainte. Je me laisserais pas faire en tout cas, par cette personne, si je le peux en tout cas.
Et pour ceux présents lors de la soirée, quelles étaient leurs attentes?
Ouais, je pense que ça peut nous aider à savoir comment réagir face à ces situations.
Découvrir. C'est surtout découvrir, savoir ce qui se passe, avoir une conscience de jusqu'où ça peut aller, comment les gens arrivent à de telle agressivité, de telle agression par des mots. Voilà. Et puis moi, j'accompagne des hommes et des femmes qui cherchent du boulot et qui ont parfois des blessures. Donc voilà, ça peut être aidant aussi peut-être dans mon travail à comprendre certaines choses.
On est curieux, pour découvrir un peu.
Déjà par rapport au débat, justement, le fait de savoir qui est les forces de l'ordre, j'avais vu sur la Gazette. Et je me dis que j'aurais peut-être spontanément des questions à poser par rapport à ma protection et puis celle des personnes qui m'entourent.
Bah déjà, en apprendre plus comment pas se protéger, parce que moi je sais me protéger, mais comment les régler auprès de la jeunesse, c'est-à-dire prendre des mesures légales, aussi des mesures psychologiques, c'est-à-dire ce qui peut réparer des maltraitances sur les réseaux. Donc en général on peut parler de thérapie, mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont mieux ou des trucs qui sont plus à propos à voir? Donc j'ai envie de voir aujourd'hui ce que cette science peut m'apporter au niveau de ma culture et après pouvoir peut-être pas faire de la prévention mais enrichir la culture des autres grâce à ça.
Je suis venue vraiment par curiosité. J'ai pas forcément d'attente, je viens juste ici en mode je découvre.
Ayant déjà vu le film, j'espère que cet événement là va permettre de sensibiliser pas mal de personnes, notamment sur la question des cyberviolences et notamment en fait du sexisme, surtout qui est encore très présent, et notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est là où c'est plus criant, là où les gens peut-être ont un masque dans la vie réelle. Sur les réseaux sociaux, ce masque tombe et on ressort les pires choses, je pense, et notamment sur les femmes.
Ouais, de ouf, j'ai vu les affiches dans un bar, donc chaud d'y aller. En plus, c'est un sujet qui concerne tout le monde, donc j'ai plein d'attentes, j'ai plein de questions, mais en vrai, j'aurais dit, une de mes attentes, c'est une question que j'ai envie de poser aux intervenants. Est-ce que la misogynie est une question de génération ?
Eh bien, ce soir.
Après la projection, un débat était organisé avec comme intervenante Catherine Presse, représentante de SOS Violence Conjugale 42, et Delphine Duriot, représentante de Zoomacom. Le documentaire se passe sur deux continents. Quatre femmes sont victimes de cyberviolence extrême. Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, présidente du Parlement italien, Kia Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Graton, jeune enseignante québécoise. Abandonnée par les forces de l'ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, elle décide de se battre et de ne plus se taire.
Donc pour remettre un petit peu le contexte, pourquoi on est là ce soir, pourquoi toutes les deux ? C'est que moi donc je suis médiatrice numérique à Zoomacom, qui est le centre de la médiation numérique dans la Loire. J'interviens et j'accompagne très souvent les éducateurs de prévention. Et il m'est arrivé de plus en plus, ces dernières années, de croiser des professionnels que moi j'appelle des victimes collatérales, en fait, des cyberviolences. Et je me suis posé la question, je me suis questionné, mais c'est quoi mon putain de rôle, en fait, dans ce monde, face aux cyberviolences ? Et quand on s'est rencontrés, c'était censé durer une heure, on a fini toute l'après-midi ensemble avec Catherine, parce qu'on a vu qu'on avait énormément de choses à faire, parce que moi, toute seule, dans mon côté médiation numérique, je pouvais rien faire toute seule. Et par contre, avec des éducateurs de prévention et SOS Violence Conjugale en particulier, on avait énormément de choses à mettre en place, des outils, des actions comme ce soir. Et ce soir, c'est une des premières actions qu'on fait vraiment ouverte au grand public et pas qu'aux professionnels. Voilà.
Juste pour compléter, on n'est pas venu toute seule ce soir pour échanger avec vous parce que voilà, on est loin de détenir toute la connaissance et de pouvoir sûrement répondre à vos questions. Moi, je suis venue accompagnée du coup de notre infirmière qui intervient, Leïla, je te demande de nous rejoindre, qui intervient à l'association en fait. Donc nous, on sera plus à même de vous répondre sur les conséquences des cyberviolences et notamment autour des violences conjugales. Parce que nous, si on a répondu aussi à ce projet avec Delphine, c'est que ça fait une bonne année. Alors certes que je suis directrice, mais en tout cas, on voit monter les cyberviolences dans le cadre des violences conjugales. On voit arriver des personnes. Alors pour présenter l'association, on accompagne des victimes de violences conjugales. Alors, quand je dis victimes, c'est qu'on n'accompagne pas que des femmes. On accompagne aussi des hommes. En tout cas, dans les cyberviolences conjugales, ce sont plutôt des femmes qui sont touchées. Et la particularité de notre association, c'est que nous accompagnons aussi des auteurs de violences conjugales. Alors, ce n'est pas le sujet ce soir. Et que c'est vrai que ça fait une année qu'on est confronté au sein de l'association à une montée des cyberviolences. Nous avons beaucoup de situations qui illustrent ce qu'on a vu ce soir et les dégâts que peuvent faire ces cyberviolences. Et donc, nous serons prêtes à répondre à vos questions et vous présenter, s'il le faut, la situation d'une femme qu'on accompagne toujours au niveau de l'association.
Bonsoir à tous. Donc, je me présente, nous trois, nous sommes de la gendarmerie. Moi je me présente, je suis le capitaine Chiro Mathias, je suis en charge de la police judiciaire pour le département de la Loire, donc d'une manière globale, pour tous les sujets de police judiciaire, j'interviens à différents niveaux, notamment dans la coordination. Et concernant le sujet des vifs, qui est un sujet prégnant, autant pour la justice que pour la gendarmerie et la police, surtout depuis 2019, où il y a une véritable montée en puissance et en compétence de nos effectifs sur ce sujet-là. Nous coordonnons donc les actions qui se situent à la fois en termes de prévention. Quand il s'agit d'agir en prévention, je dirais qu'il faut s'estimer heureux. Mais la plupart du temps, malheureusement, on intervient dans le cadre, le volet judiciaire, donc dans la prise en compte des nombreuses victimes de vifs et plus particulièrement, donc ce soir, ce qui nous intéresse, le cyberharcèlement. Donc je suis venu accompagner de la Maison de la protection des familles. Donc là, c'est une unité un petit peu particulière pour la gendarmerie, car ce sont des gendarmes qui sont vraiment spécialisés pour accompagner toute personne pour faire face à ces différentes atteintes. Donc comme je le disais, sur un point de vue prévention dans les écoles et ailleurs aussi dans d'autres instances, et également ce sont des enquêtrices à part entière, donc qui sont qualifiées OPJ, et qui mènent des enquêtes et qui apportent donc en tant que sachant plus leur soutien et leur concours pour les unités, les différentes unités gendarmerie qui sont saisies. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole.
Oui, donc comme vient de le dire le capitaine, donc nous on intervient déjà dans un premier domaine en termes de prévention, et ensuite dans le domaine judiciaire à l'audition des mineurs victimes de violences et de violences à caractère sexuel, hein, et également des victimes de violences au sein de la famille. Lorsqu'il y a des situations de violence, on entend tous les mineurs qui sont impliqués dans ces violences en tant que personnes ayant subi, mais également témoins. Parce qu'il faut savoir que maintenant un témoin de violence est considéré comme une victime. Donc on procède aux auditions de tous ces mineurs, sur tout le département de la Loire, en zone gendarmerie. Voilà, nous sommes à l'effectif de 4. Et l'année dernière, donc, on a procédé à un peu plus de 310 auditions dans ces deux domaines-là, à la fois sexuelle et violence intrafamiliale. Également, on peut aussi être amené à entendre des mineurs, hein, puisque nous, on a vraiment ciblé notre travail sur les mineurs, lorsqu'ils sont victimes de cyberharcèlement, et notamment de cyberharcèlement à connotation sexuelle, et notamment dans la diffusion des images à caractère pornographique, la corruption de mineurs et autres. Voilà.
Bonsoir, je m'appelle Léa, je fais partie de l'association Stop Ficha. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est plutôt ciblé au niveau national. On a une antenne sur Paris, moi je fais le relais entre Saint-Étienne et Lyon, également sur Nice et au niveau de Poitiers, Toulouse. On s'occupe de tout ce qui est cyberharcèlement et tous les types de cyberviolence en ligne sur Internet.
Bonsoir de nouveau, du coup, je me représente, ma collègue l'a fait déjà, donc je suis infirmière. Et dans le cadre de mes missions, j'interviens à SOS Violence Conjugale sous forme de permanence, une demi-journée par semaine où je reçois des femmes et des hommes victimes de violences conjugales.
Alors, je prends le relais. L'idée, c'était surtout de vous laisser la parole si vous avez des questions aux intervenants. Mais peut-être qu'une première question pour lancer un peu la discussion que nous, on avait en tant que volontaires à Unicité. C'était la question de... On voit que dans le film, on a le parcours de 4 femmes qui sont des femmes très différentes. On voit qu'il y a des femmes qui sont dans le pouvoir, d'autres pas, comme l'étudiante québécoise, des femmes qui portent des idées féministes, d'autres pas, des femmes qui sont jeunes, d'autres moins. Est-ce que les cyberviolences, elles touchent toutes les femmes, ou quels sont les profils les plus... Quel est le profil type des victimes de cyberviolences?
Nous, on peut vous parler d'une situation d'une femme que nous avons accueillie et qu'on accompagne encore. Donc, c'est une jeune femme qui arrive à l'association en juin 2022, qui est enceinte et qui arrive, si on peut le dire, dans le cadre de violences conjugales ordinaires. C'est-à-dire qu'elle a subi des coups, elle a subi des insultes, elle a subi des menaces psychologiques. Et donc, à partir de là, nous, on va la mettre à l'abri. On fait notre travail dans le cadre de l'association. Et en fait, cette femme, progressivement, va être harcelée par l'auteur des violences conjugales, en fait, va trouver d'autres moyens de l'atteindre. Et ces moyens, du coup, ils vont commencer tout simplement par des messages assez basiques, en fait. Et puis, progressivement, vont aller sur les réseaux sociaux. Ça va commencer par Facebook, quelque chose qui est assez simple. Il va usurper son identité. Il va publier des photos d'elle qu'il a pu garder puisqu'il avait accès, ils étaient en couple, il avait accès à son téléphone. Il avait accès à sa boîte mail, puisque voilà, quand on est en couple, on se méfie pas forcément en fait que l'autre puisse avoir ses codes d'accès, lire ses mails, voilà. Donc il va suivre sa grossesse à distance en fait, puisqu'il va voir tous les rendez-vous qu'elle va prendre par sa boîte mail. Donc il va la suivre,
Il va continuer en disant ben, « je t'ai vu à tel rendez-vous » et les menaces vont s'accentuer. Alors tu vas prendre un peu le relais, Leïla, puisque quand même tu as beaucoup accompagné cette dame et notamment dans les messages qu'elle a pu recevoir qui deviennent de plus en plus haineux en fait.
Oui. Donc je, pour reprendre un petit peu la situation, je rencontre cette dame parce qu'elle est enceinte et donc la SOS me demande d'intervenir parce qu'elle est isolée plus et que la grossesse est pathologique. Et en la suivant avec la sage-femme de secteur, on se rend compte qu'elle sombre dans une dépression parce qu'elle reçoit des messages sur les réseaux. Donc d'abord, comme disait Catherine, Facebook, et on le voit bien, hein, c'est quelque chose d'insidieux, on parle de temporalité, elle en parlait aussi. C'est-à-dire qu'il commence par Facebook, le réseau le plus ancien, et ensuite il fait... Snap, je crois, Snapchat, et ensuite il finit par TikTok et elle décompense. Hein, c'est double peine, triple peine, traitement, hospitalisation. Voilà, l'idée de parler de cette situation-là, c'est de se dire que ça reflète un peu ce qui s'est passé sur le documentaire, cette histoire de temporalité. Ça commence quelque part, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, et aujourd'hui, voilà.
En fait, à un moment donné, elle en peut tellement plus, cette dame, que sa seule issue, c'est se tuer et tuer son bébé. Parce qu'elle n'en peut plus de vivre et qu'elle n'en peut plus de voir ses réseaux sociaux, ce téléphone qui vibre. Elle a besoin d'aller le consulter en fait tous les jours parce qu'elle sait qu'on va parler d'elle en fait, que d'autres vont lire du contenu à propos d'elle et notamment sa famille qui ne vit pas en France. Et sa famille en fait va croire tous ces messages, toutes ces pages la concernant qui parlent d'elle comme une prostituée. Il y a eu des messages du coup où il lui est demandé, enfin, on donne son numéro téléphone, sa photo, et on dit qu'on peut violer cette femme dans Saint-Étienne. Donc madame, on va l'accompagner en fait sur des dépôts de plainte, mais c'est difficile pour elle puisqu'elle est prise pleine d'émotions en fait, comme moi quand j'en parle aujourd'hui, parce que c'est une situation qui est très touchante. Et du coup, c'est difficile pour elle de déposer plainte et de faire entendre sa parole en fait, parce qu'elle n'arrive pas à tout nommer de tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle ressent.
Je crois qu'elle comprend même au départ pas qu'elle est harcelée, on va dire, sur les réseaux, parce que quand on va à la police, il y a des choses qui sont faites, hein, la police entend, mais c'est compliqué à qualifier, en fait. Et elle va porter plainte, mais ça, c'est de plus en plus important, de plus en plus important, et elle se rend pas forcément compte, et c'est au moment où elle décompense, au moment où on arrive à trouver une solution pour ces réseaux.
Alors, la solution, c'est un collègue qui va se spécialiser, en fait, sur les cyberviolences, le cyberharcèlement, qui va tout doucement se former et apprendre à détecter des puces, des traceurs sur les téléphones, et qui va tout simplement faire le 3018. C'est le numéro vert, en fait, et c'est grâce à ce numéro, en expliquant la situation de cette dame, en fait, que, du coup, le 3018 va arriver à tout bloquer. À bloquer tous les sites que monsieur, où il a pris son identité. Et du coup, tout va s'arrêter. Comme tout s'est arrêté de son côté, ce monsieur qui agissait plutôt dans l'ombre, en fait, on va le voir arriver physiquement. Au mois de novembre dernier, en fait, ce monsieur a réussi à trouver l'adresse pourtant sécurisée de madame, qui n'est pas très loin de l'association. Et là, il va la trouver et venir la provoquer dans la rue, en fait. Il va intervenir physiquement. Donc nous, on fera intervenir la police à deux reprises. Et ce qui a en tout cas permis de stopper les affaires, c'est que monsieur a pu être placé en garde à vue et qu'il va être jugé prochainement. Mais pour vous dire que voilà, ça a été très très loin et qu'heureusement que nous n'étions pas trop loin d'elle et qu'elle a su venir se protéger auprès de nous, que les choses ont pu pour l'instant s'arrêter. Jusqu'à quand? Ça, je ne peux pas vous le dire.
Donc on va enchaîner avec vos questions. Des questions ou des commentaires sur le documentaire?
Bonsoir. J'aurais voulu savoir, concernant les peines par rapport aux auteurs de cette cyberviolence, quelles peuvent être les peines différentes que ces personnes peuvent encourir en fait, par la suite, si ça a été repéré en tout cas comme cyberviolence?
Oui, alors donc si on en reste, vous l'avez compris, les faits, il faut qu'ils soient qualifiés. Il faut qu'ils caractérisent une infraction pénale pour qu'ils soient bien pénalisés. Depuis plusieurs années, le législateur a fait en sorte de prendre en compte ce genre de situations qui sont un peu mieux prises en compte, mais le chemin est encore long, je dirais. Si on parle uniquement de faits de cyberharcèlement, c'est-à-dire qui s'arrêtent, je dirais, à l'espace d'Internet, il y a un minimum de 2 ans de prévu pour l'auteur. Maintenant, s'ils sont suivis, évidemment, d'autres faits plus graves, je dirais de violence physique, évidemment, tout ça, c'est des circonstances aggravantes pour ces faits-là. Voilà, en fait, chaque cas est vraiment à prendre aux particuliers, puisque chaque situation est bien particulière. Mais ce qu'on peut déjà s'estimer comme étant une belle avancée, c'est que le fait de proférer des propos qui sont haineux envers une personne et qui a pour conséquence de dégrader son état psychique ou physique, maintenant est pénalisé. Voilà, ce qui n'était pas le cas il y a quelques temps.
Et est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont actrices de cette cyberviolence se rendent compte de ce qu'ils font, en fait, l'impact qu'ils ont sur les personnes ils peuvent exercer cette violence? Ou en fait, pas du tout, et c'est en se rendant compte, en se retrouvant devant la justice, que finalement, ah bah mince, ou je sais pas, voilà.
Je pense pas que la personne se rende compte, parce qu'elle est vraiment dans elle est dans un cycle de violence. Elle commence derrière les écrans, et puis ça monte. Elle se rend compte que les écrans, au bout d'un an, ça atteint plus la personne. Elle se montre physiquement. Je pense qu'elle a pas peur, hein. Elle n'a pas peur.
Pour travailler avec des geeks depuis 16 ans, je précise, dans un environnement d'hommes, où j'étais pendant très longtemps la seule femme, effectivement, il y a une espèce de force d'être derrière un écran, mais pas seulement aussi, d'avoir le pouvoir sur l'outil informatique. Pendant des années, en fait, tous les ingénieurs informaticiens, etc., se la pétaient un petit peu. Hein. Voilà. Moi, je ne viens pas de ce monde-là. Mais j'y suis arrivée. Et puis, ils ont des manières de faire. Alors, il y en a qui font le bien. Il y a le hacker blanc et puis le hacker noir. Il y a un peu ces images-là qui restent collées à l'image du geek. La plupart font le bien. Après, c'est vrai que les écrans, le fait d'être derrière des écrans, ça facilite quand même cet aspect d'anonymat. Il est quand même facilitateur du déclenchement de la haine, ou alors, en tous les cas, de l'expression de la haine. Donc, je suis d'accord avec vous, effectivement, il y en a, ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'il y en a qui s'en rendent compte, et c'est une forme de prise de pouvoir, en fait, pour des gens qui, dans la vie réelle, ne seraient pas forcément violents. Donc ça dépend, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, ça dépend vraiment des personnes qui sont à la fois derrière et qui expriment cette violence, et puis de la personne aussi qui la reçoit. Voilà, c'est hyper complexe. Moi, j'ai fait un petit travail, en fait, d'analyse et de veille, pas tous les jours, mais quasiment, en fait, sur les cyberviolences. Et on calcule à peu près, il y en a à peu près 35 variétés différentes de cyberviolences qu'on peut identifier. Et si un jour, vous connaissez quelqu'un ou vous-même, vous vous retrouvez dans la situation, et je ne le souhaite pas, de devoir aller porter plainte, il vaut mieux, je pense, être en connaissance de ce qui vous arrive exactement, de pouvoir le nommer techniquement, savoir d'où ça vient, par quel outil, comment, pourquoi, etc., pour pouvoir aller porter plainte, pour qu'effectivement, bah, la gendarmerie ou la police soit plus apte, en fait, à recevoir votre dépôt de plainte. Il y a un long travail à faire, en fait. Et pour ça, on a besoin, nous, en médiation numérique, d'accompagner les professionnels. Les associations féministes ont super bien bossé. Moi, j'arrive là, c'est un peu... c'est la crème, quoi. Elles ont tout fait. Ces associations, il y a juste à déployer, en fait, et faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux à être formés, effectivement.
Moi, j'aurais une question pour Léa de Stop Ficha. Est-ce que tu peux détailler les actions que font ton association?
Alors, nous, au sein de l'association, déjà, on va faire du suivi psychologique pour les personnes qui en ont besoin. On a des bénévoles internes en psychologie qui suivent les victimes pour celles qui en ont besoin. On a également une avocate en interne qui aide et qui conseille les victimes, que ce soit pour des dépôts de plainte ou toutes les actions juridiques à avoir dans le futur. Et également, on travaille en partenariat avec NetEcoute, qui nous aide à supprimer les comptes, que ce soit sur Snapchat, Instagram, Facebook, quand il y a des auteurs de faits sur les réseaux.
Bonsoir. Moi, j'ai une question plutôt pour le capitaine, je pense. On a vu dans le film, donc même si ça se passait en effet au Québec et aux États-Unis, que les forces de l'ordre là-bas n'étaient ni équipées juridiquement, ni vraiment volontaire pour répondre à ce genre de cyberviolence. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que depuis 2019, il y avait une montée en puissance un peu au sein de vos rangs de façon de lutter. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous pouvez préciser un peu, détailler, est-ce que c'est par des formations, des nouveaux protocoles, comment ça se manifeste chez vous, justement, cette réponse, comme vous l'avez dit.
En introduction, et puis après, je vais laisser le micro, je pense, aux spécialistes de l'EMPF, qui en parleront mieux que moi. Effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a une réelle prise de conscience au haut niveau, ce qui s'est transformé par des prises de décision au niveau gouvernemental et qui s'est traduit, qui se sont déclinées en fait par une législation et des réglementations au travers notamment des deux ministères, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je vais parler surtout donc de la gendarmerie qui s'est donc dotée d'un panel de formation qui a été offert donc à tous les gendarmes. Donc il faut savoir que tous les gendarmes qui œuvrent en brigade, donc dès lors que vous allez pousser la porte d'une brigade, vous aurez forcément affaire à un gendarme qui a à minima reçu une formation ad hoc. Et ensuite, il y a d'autres formations qui s'adressent à d'autres gendarmes OPJ, notamment qui sont délivrées par les enquêteurs et les enquêtrices de MPF.
Alors, juste pour compléter la réponse du capitaine, c'est vrai qu'il y a des formations qui sont mises en place depuis 2019, suite au Grenelle. Donc, il y a plusieurs niveaux chez nous. Mais d'abord, quand on est en école de gendarmerie, on est sensibilisé. Et puis ensuite, nous, qui sommes formés à un niveau expert, violence intrafamiliale. On a suivi une formation ensuite à notre retour. Donc c'est une formation qui est au centre de formation de la police judiciaire à Rosny-sous-Bois. Quand on rentre dans nos départements, on est en charge de former l'ensemble des militaires du département. Donc moi j'en ai formé environ 450. On est plusieurs, on est trois précisément dans le département à avoir formé l'ensemble des militaires. Alors, c'est des militaires qui vont agir, hein, qui sont dans des unités opérationnelles et qui vont être ou au cœur, ça fait partie de leur intervention, donc le cœur de métier, les interventions, par exemple, au domicile, ou alors, évidemment, lors des recueils de plaintes, des prises de plaintes dans les unités. Donc, c'est des gens qui sont formés, sensibilisés, avec un protocole. Hein, donc, il y a plein de mesures différentes. Je ne vais pas vous les expliquer les unes après les autres, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on apprend. C'est 8 heures de formation pour chacun des gendarmes, c'est 4 modules différents, et puis on a la chance de travailler aussi au quotidien avec des intervenantes sociales gendarmerie. Ça, c'est quelque chose qui s'est mis en place il n'y a pas très longtemps. On en a 3 par exemple sur le département de la Loire, et au sein de nos bureaux à Andrézieux-Boutéon, on travaille avec une intervenante sociale gendarmerie qui est dédiée, son travail est dédié dans la prise en charge des victimes de violences intrafamiliales. Donc au quotidien, elle travaille 5 jours par semaine avec nous, toute la journée, et elle est saisie de tous les faits, de toutes les interventions de la gendarmerie, de toutes les procédures gendarmerie au quotidien. Donc elle est en charge de rappeler les victimes, etc. Donc il y en a 3 sur le département, voilà. Donc ça, c'est une avancée. Les formations, effectivement, c'est une avancée, avec un recyclage prévu tous les 5 ans pour ces formations-là, donc pour ces militaires-là.
Compléter dans l'accompagnement des victimes, parce qu'il faut aussi les protéger, ces victimes. Donc sachez qu'il a été mis en place dans les différents ressorts des tribunaux des comités de pilotage. Donc c'est des réunions qui rassemblent donc les magistrats, les forces de l'ordre, les associations également. Alors, juste la thématique des victimes vives, mais aussi des moyens, des dispositifs de protection qui sont mis à disposition en cas, je dirais, de dangers graves, dangers qui sont souvent évalués par des intervenants sociaux. Qui font l'objet donc ensuite, qui font un rapport au magistrat, et ensuite la justice décide de la mise en place de ces dispositifs. Donc on retrouve des téléphones grave danger, qu'on appelle les TGD, qui sont remis aux victimes de violences conjugales. Donc c'est un téléphone tout simplement par le biais duquel la victime peut actionner un bouton et prévenir ainsi et actionner les forces de l'ordre. Et ensuite, vous avez également le bracelet anti-rapprochement, qu'on appelle BAR, qui là fonctionne avec un GPS. Donc là, sans action de la part de la victime. Tout ceci donc, s'inscrit dans un protocole d'intervention pour les gendarmes et qui sont, dès lors qu'il y a une alerte qui arrive soit par le TGD, soit par le BAR, déclenche donc un mode d'intervention particulier, en priorité mise en protection de la victime et dans un second temps donc interpellation de l'auteur, puisque ça constitue également une infraction pénale pour l'auteur qui se rapprocherait de la victime et qui se retrouvait donc sous le coup d'une interdiction d'être en contact avec elle. Voilà. Et très récemment, il y a également la création de pôles vifs au sein de chaque ressort de tribunaux. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, la situation que vivait une personne avait déjà été traitée, pas forcément au sens pénal, mais dans le cadre de jugement d'affaires familiales ou avec l'intervention d'un juge pour enfants, et que les magistrats ne se parlaient pas forcément, que bien malheureusement des situations qui sont vécues comme très traumatisantes pour les victimes là, se résument à un dossier pour d'autres personnes, hein, c'est humain, c'est comme ça, donc il y a des informations qui ne circulaient pas suffisamment bien et donc pour avoir l'exhaustivité et pour se faire une bonne analyse de la situation familiale rencontrée par la victime, ces pôles vifs ont pour objet justement de réunir toutes ces informations qui ressortent de plusieurs jugements. Et donc au sein de chaque tribunal, vous avez un magistrat, à minima, un magistrat qui est dédié aux vifs, et vous avez également des audiences particulières maintenant, pour pas que, par exemple, un jugement se retrouve parmi d'autres jugements correctionnels qui n'auraient rien à voir, hein, d'atteinte aux biens ou autre. Donc là, il y a des audiences maintenant qui vont être mises en place où il n'y aura que des affaires de violence intrafamiliale qui seront évoquées. Voilà. Et accompagnant ces pôles vifs, a été mis en place aussi un nouveau fichier. C'est tout récent, hein, puisque là, nous sommes le 8 avril. Les droits d'accès ont été ouverts aujourd'hui pour les forces de l'ordre de la gendarmerie et de la police et aussi de la justice. C'est un portail en fait d'accès sur plusieurs bases de fichiers qui sont consultées à l'instant T par les forces de l'ordre uniquement, évidemment, en cas d'intervention, mais aussi dans le cadre de l'enquête judiciaire, où l'on retrouve les antécédents judiciaires de l'auteur, mais aussi de la victime, si ces personnes-là ont fait l'objet d'un jugement, si l'auteur dispose d'armes, par exemple. Et si la personne a fait déjà l'objet d'une intervention à son domicile pour ce genre de choses. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une image, une photographie à l'instant T et dans le présent de la situation à laquelle plusieurs personnes vont devoir traiter, en premier lieu les forces de l'ordre et puis les autres personnes.
J'aurais deux questions, une très courte. Expliquez-nous ce que c'est que le 30-18 et est-ce que tout le monde y a accès ou pas ? Et ma deuxième question, moi, c'est par rapport à l'attitude qu'on doit avoir, nous, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis engagée dans la vie politique depuis de nombreuses années et à un moment donné, j'ai été obligée de changer mon profil. Je n'ai plus d'amis que de vrais amis que je connais très bien et tous mes posts sont réservés uniquement à mes amis, c'est-à-dire que j'ai supprimé tout ce qui était public. Voilà. Est-ce que je fais bien ou est-ce que c'est reculer quoi devant ce harcèlement qui n'est pas, excusez-moi, c'était pas sexuel, hein, c'était politique. Mais ça pouvait être quand même très misogyne.
Alors tout d'abord, je vous remercie de témoigner de votre expérience. J'espère que c'est fini et que le fait que vous ayez nettoyé un petit peu votre liste d'amis, ça vous a permis de retrouver un peu de sérénité. Alors, est-ce que vous faites bien ? En tant que médiatrice numérique, j'ai envie de dire oui. Apparemment, vous faites bien. En tous les cas, vous faites mieux. Après, je trouve ça toujours dommage de ne pas pouvoir se comporter soi-même comme on a envie, c'est-à-dire d'avoir un profil public et puis de se permettre aussi, pourquoi pas, de rencontrer des nouvelles personnes sur les réseaux sociaux. C'est à ça aussi que servent les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est le genre de comportement qu'on vient de regarder ce soir qui nous font nous renfermer sur nous-mêmes. Et moi, ça m'inquiète, en fait. Voilà, avoir peur, ça ne devrait pas être la norme. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, en fait. C'est pour qu'ensemble, avec les forces de l'ordre, les tribunaux, les avocats, les avocates, il y en a deux qui m'ont envoyé des mails, je ne sais pas si elles sont là ce soir dans la salle, mais en tous les cas, c'est vrai que le fait de travailler ensemble, c'est pour faire en sorte que des violences, apparemment que vous avez subies, si vous avez décidé de nettoyer votre profil, en général, on ne le fait pas de manière volontaire, c'est en général, c'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse à le faire.
Le 3018, c'est un numéro de téléphone pour les personnes qui se font cyberharceler et c'est également une application. Sur cette application, il y a un quiz pour savoir si vous êtes cyberharcelé, un coffre-fort pour réunir toutes les preuves pour porter plainte et un chat pour parler 24 heures sur 24.
C'est connu, mais en ligne, sur Internet, c'est relié... Alors, vous avez aussi les plateformes comme e-enfance. Point de contact, c'est une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable et à chaque fois que vous voyez une violence, quelle qu'elle soit, ou quelque chose qui vous choque ou vous estimez n'aurait pas sa place sur Internet, il faut vraiment que ce soit grave, hein, par contre, vous pouvez le signaler sur point de contact. 3018, avant il y avait le 3020 et le 3018. Maintenant, ils ont rassemblé les deux numéros. Alors, c'est une bonne chose parce que c'est plus simple. Il n'y a qu'un numéro à se rappeler, 3018, en cas de harcèlement ou de cyberharcèlement. Par contre, la plateforme, maintenant, elle est surbookée. Vous appelez, vous êtes en ligne d'attente. Donc, il faut le savoir, il faut se préparer, il faut rappeler. Et puis, si un jour, vous avez quelque chose à signaler en ligne, il faut vous armer d'un peu de patience. Hein, beaucoup de patience, même. Il faut le signaler plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à revenir. Et puis, surtout, en cas de cyberharcèlement pour des jeunes, des ados, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils n'ont pas besoin qu'on les juge, en fait, dans ce qu'ils ont fait. Voilà.
Nous, on a une page Instagram, une page TikTok et une page Facebook. Vous pouvez nous écrire directement. Également, sur Instagram, on a un lien dans notre description qui sert directement à signaler tous les comptes que vous estimez qui n'auraient pas sa place, tels que usurpation d'identité, si vous vous faites afficher, harceler, tout ce que vous voulez. Nous, on sert à ça aussi, on fait le relais avec les plateformes directement, vu qu'on a des partenariats et on aide à supprimer les comptes et les choses qui n'auraient pas leur place sur Internet.
J'avais une deuxième question à la dissertation de Léa, de Stop Ficha. Je sais également que l'association, alors je ne sais pas si vous le faites encore, mais vous faisiez aussi de l'infiltration des réseaux de diffusion de nude, des réseaux de harcèlement, de raid numérique, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous le faites encore. Et je voulais savoir, en tant que du coup militante de l'association, est-ce que vous mettez en danger de backlash sur les réseaux sociaux et de vous-même d'attaques, de violences? Et est-ce que voilà, enfin par rapport à ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez faire, et notamment si vous infiltrez encore les réseaux, est-ce que la réponse est de plus en plus violente? Est-ce qu'il y a de plus en plus de cas? Vous avez de plus en plus de sollicitations et de besoins? Ou, enfin, voilà, comment ça évolue un peu? Et est-ce que ce danger touche aussi finalement les militantes de l'asso?
Alors, moi, personnellement, j'ai jamais été dans tout ce qui est ces raids et ce pôle qu'on appelle le pôle enquête. Moi, je m'occupe beaucoup du pôle, justement, victime. En fait, c'est moi qui gère le Instagram avec d'autres filles. On s'occupe de faire le relais avec les victimes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui étaient dans ce pôle enquête, c'était très dur mentalement, c'était très violent, en fait, de voir tout le temps des affiches de femmes dénudées, de femmes qui se faisaient insulter, de femmes qui bref, j'en passe. C'était très dur pour elle mentalement, donc en fait, on a décidé d'arrêter ce fonctionnement-là parce que il y en a certaines qui ont fini en burn-out à cause de ça. Donc c'est pour ça que maintenant, on passe plus par ce relais de signaler directement le compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des petits noyaux qui se forment sur des villes où elles sont plusieurs, comme à Paris, comme à Poitiers. Elles recrutent beaucoup de personnes avec lesquelles elles font des réunions physiques, justement, pour mener un peu plus d'action. Après, on va intervenir beaucoup. Là, actuellement, on a des filles qui sont à Bucarest pour des interventions, justement, de sensibilisation. Moi, je suis déjà intervenue à Nîmes. On a des interventions un peu dans toute la France, en Belgique aussi. Donc, on essaie vraiment de se déployer. Et après, vis-à-vis de moi et de mon expérience, en fait, encore plus de ce que je vois, je me protège encore plus. C'est-à-dire que je ne vais pas d'autant mettre mes raisons privées parce que je ne vais pas me gêner et m'empêcher de faire quelque chose pour des personnes. Mais je vais me protéger un minimum. C'est-à-dire que je vais pas donner ma confiance comme ça, comme bien souvent des filles qui sont un petit peu naïves et c'est pas leur faute, en fait, se font avoir. Des filles qui, des fois, sont très jeunes. Encore hier, j'ai reçu un message d'une jeune fille de 11 ans qui s'est retrouvée influencée par un majeur. Donc, c'est...
Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenu sur ce sujet. Merci d'être venu en nombre, ça fait très plaisir.